OK, aujourd'hui, on va continuer dans notre série sur la théologie. C'est notre troisième leçon sur la nature de Dieu. Alors, c'est sûr que parler de Dieu, c'est parler d'une essence, d'une substance et non pas d'une simple idée ou de la personnification d'une idée. C'est Thiessen qui dit ça dans son manuel de théologie. Je trouve que c'est important de mentionner ça parce que parler de l'essence de Dieu, parler de sa nature, c'est quelque chose qui est difficile parce que on n'a pas de référence. Quand on parle d'une bouteille, on a déjà vu une bouteille, quand on parle de toutes les caractéristiques qui concernent Dieu, ce sont des choses que notre esprit n'a pas de référence et c'est pour ça que ça rend les choses un petit peu plus difficiles à saisir. Dans la version de Darby, de la Bible, au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, au verset 6, nous lisons « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. » On avait vu dans notre leçon précédente qu'un des noms de Dieu était celui de Jéhovah. Et c'est le nom qui est expressif de son essence, quand le Seigneur dit « Je suis celui qui suis ». Bien sûr, quand on parle de la nature de Dieu, on implique les attributs et bien d'autres choses. Mais jamais, autant dans notre nature régénérée que glorifiée, nous ne comprendrons véritablement dans sa profondeur tout ce qui concerne Dieu. Ça, c'est vraiment une idée intéressante à noter parce que l'éternité même ne suffira pas à nous faire découvrir toute la beauté, toute la richesse, toute la sainteté, à la fois de la personne de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, de toutes leurs œuvres. Alors, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que de réaliser cette idée-là. L'éternité ne suffira pas à nous faire découvrir tout ce qu'il y a à découvrir sur Dieu. On lit dans Job, au chapitre 11, versets 7 et 8, « Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts, que sauras-tu? » Cependant, je pense qu'on peut dire que notre devoir sur terre comme chrétien, c'est sûrement de faire tout ce qu'on peut pour le connaître plus et le connaître mieux. Alors, une manière d'illustrer notre capacité de comprendre Dieu, ce serait de faire une comparaison et de dire que l'homme est comme semblable à un dé à coudre et que Dieu est semblable à l'océan. Alors, comment un dé à coudre peut-il contenir l'océan? Je pense que c'est une belle image pour nous faire comprendre jusqu'à quel point on n'est pas on n'a pas la capacité pour pleinement comprendre la personne de Dieu. Alors, c'est sûr qu'une des premières choses qu'on apprend quand on est chrétien sur la personne même de Dieu, c'est qu'il est un esprit. Dans Jean 4, verset 24, ça dit « Dieu est esprit ». Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en vérité, en esprit et en vérité. Dans Jean 1, verset 18, ça dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Nous lisons aussi dans Matthieu 11, verset 27, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Alors sûrement que le Fils, Jésus-Christ, a bien voulu nous révéler des choses sur le Père, sinon nous ne serions pas ici ce soir à parler de Dieu le Père. Alors, il est un esprit, mais cet esprit-là a des caractéristiques. Une des premières caractéristiques, c'est qu'il est immatériel et incorporel. Dieu n'a pas de corps. Dieu n'est pas fait de matière. Alors, on sait que, si je regarde un bouchon de bouteille avant moi, si on avait un microscope électronique, très puissant, on pourrait voir qu'il est composé d'atomes et de toutes les connaissances qu'on a acquises sur la composition de la matière. Mais Dieu n'est pas fait de matière. Il n'est pas corporel. Alors, c'est important de savoir ça. La deuxième chose, il est un esprit invisible. Nous lisons dans Colossiens 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc, Dieu est invisible. Troisième chose, c'est qu'il est incréé. Il n'a pas été créé par personne. Dans Hébreux 12, verset 9, nous disons d'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devrions-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Quatrième chose concernant la caractéristique du fait que Dieu est un esprit, c'est qu'il est infini. Ça, c'est très important à réaliser. Un roi, chapitre 8, verset 27, nous dit, « Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que je t'ai bâtie. » Souvent, aujourd'hui, le Nouvel Âge va enseigner que Dieu est la même chose que l'ensemble de toutes les choses qui sont créées, les planètes, et ils disent que Dieu est par sa création. C'est pas ça que les Écritures nous enseignent. Les Écritures nous disent que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Il est au-dessus de sa création et il est en même temps à l'intérieur de sa création. Alors, la différence entre le christianisme et le Nouvel Âge dit Dieu est sa création. Le christianisme dit Dieu a créé, il est dans sa création, mais il est aussi au-dessus de sa création. C'est ce qu'on appelle en théologie l'immanence, la transcendance. L'immanence, c'est le fait que Dieu est dans tout ce qui existe, dans tout ce qui est créé, et il est à la fois au-dessus de ce qu'il a créé. Il en fait partie, mais il est au-dessus. Alors, c'est très important de réaliser ces choses-là. Alors, nous devons éviter l'erreur grave du panthéisme et croire que l'ensemble de la matière créée est Dieu lui-même. Alors, c'est ce qu'il croit. Il est dans toute sa création, mais aussi en dehors d'elle. Nous conseillons fortement d'approfondir les concepts théologiques d'immanence et de transcendance. Dès qu'on a approfondi un petit peu ces notions-là, on ne peut plus tomber dans les erreurs du Nouvel Âge et de confondre Dieu avec sa création. C'est pas vrai. Et la cinquième caractéristique du fait que Dieu est un esprit, c'est qu'il est un esprit incorruptible. Dans Romains 1, verset 23, nous lisons « Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. » Ils ont pris un Dieu incorruptible, puis ils en ont fait. Ils ont adoré la créature, donc ils ont adoré les oiseaux, les quadrupèdes, les reptiles, et bien d'autres choses encore, la lune, le soleil, et bien d'autres choses. Alors, il est incorruptible de deux manières, Dieu. Il est incorruptible dans sa nature et aussi incorruptible moralement. Donc, Dieu ne peut pas commettre aucune forme de péché, ni en pensée, ni en parole, ni en action. Il n'a jamais fait quelque péché d'omission, quelque péché secret que ce soit. Il est incorruptible, sa sainteté est absolue. Incomparable, il est un esprit incomparable. Dans Isaïe 40, verset 18, nous disons, « À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égard? » Dieu est définitivement incomparable puisqu'il est unique. On peut comparer des choses, des pommes avec des pommes, dans les choses humaines, dans les choses terrestres, on peut comparer. Mais Dieu est incomparable. Dans Ésaïe 46, verset 5, ça nous dit, « À qui me comparez-vous? Me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons ensemble? » Et on pourrait citer, comme j'ai dit l'autre jour, quand on va dans l'œuvre de Gill, il cite beaucoup plus de versets que ceux que je vous donne. J'en nomme seulement quelques-uns. comme pour juste illustrer ce que j'avance. Et septième, il est éternel. Pour Dieu, l'éternité est un éternel présent. Nous lisons dans le psaume 90, verset 2. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Huitième, il est indépendant. Là, on va voir différents versets qui nous démontrent que Dieu est indépendant. Exode 3, verset 14. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Dans le contexte, c'est très clair ici, c'est Dieu le Père qui s'adresse à Moïse. Cependant, dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même s'attribue ce même titre de « Je suis ». Donc, c'est comme une façon de dire de « Je suis Dieu » que Jésus disait lui-même. Dans Isaïe 41, verset 4, « Qui a fait et exécuté ces choses? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Moi, l'Éternel, le premier et le même jusqu'au dernier âge. » Apocalypse 1, verset 8. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Vraiment, j'aime beaucoup ce verset-là, l'alpha et l'oméga. Il est la source et la fin de toute chose. Quand on comprend vraiment bien ce qu'il est en train de dire, « Je suis la source de toute chose. » Et je suis la fin de toute chose. Dans Jean 8, versets 58 et 59, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Alors, ils avaient vraiment compris que l'affirmation de Jésus-Christ, il affirmait clairement sa divinité. Dieu ne dépend de rien en dehors de lui-même. J'ai pris une petite phrase que j'ai trouvée dans un livre de théologie que j'avais à la maison, qui parle de cette idée d'indépendance-là. C'est Henry C. Thiessen, T-H-I-E-S-S-E-N, dans son livre « Esquisse de théologie biblique ». C'est ce qu'il dit sur Dieu. « L'existence indépendante de Dieu » n'a cependant pas pour base sa volonté, mais plutôt sa nature. Il existe par la nécessité de sa nature en tant qu'être n'ayant pas de cause. Il n'est pas juste de dire que Dieu est sa propre cause, car il aurait alors le pouvoir de se supprimer lui-même. Alors, il existe de façon indépendante, il ne pourrait pas s'autodétruire. Il existe de par sa nature, pas parce qu'il décide d'exister, c'est sa nature même l'existence. Autre caractéristique du fait qu'il est un esprit, c'est qu'il est immortel. Alors ici, on rencontre une petite difficulté parce que il y a des versets qui disent que Dieu seul est immortel. Cependant, la théologie enseigne aussi que les êtres que Dieu a créés, les hommes et les anges, sont aussi mortels. Alors, il faut savoir comment faire la différence des deux. Dans 1 Timothée, chapitre 6, versets 15 et 16, ça nous dit que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Alors, l'immortalité pour Dieu, c'est de toute éternité. Il n'y a jamais eu de commencer. C'est vraiment difficile à saisir pour nous autres. Parce que nous, on a un esprit linéaire. Tout ce qui existe a eu un commencement, a un développement, une fin. Mais quand même, on essaiera de reculer. On ne peut plus reculer. L'existence de Dieu, son immortalité, on ne peut pas trouver le bout, ça nous fatigue d'être humain, parce que nous, on nous dit trouver le bout de toute chose. Alors, Dieu a existé de toute éternité. Pour les êtres humains, pour les anges, l'immortalité, pour les créatures, c'est ils ne sont immortels qu'à partir de leur création. Moi, je suis immortel, vous êtes tous immortels, mais à partir de quand? Pas de toute éternité, depuis notre début, notre création. Alors, les anges que Dieu a créés, les hommes que Dieu a créés, sont immortels, cependant, ils ne passeront pas tous l'éternité à la même place. On sait que les anges déchus et les hommes qui ne sont pas dans le conseil de Dieu, qui ne sont pas élus, vont passer l'éternité. Ils vont être immortels eux aussi, mais ils ne passeront pas l'éternité à la même place.
Donc, on a un début, mais on n'a pas de fin.
On a un début, mais on n'a pas de fin. Tandis que Dieu n'a pas de début, il n'a pas de fin, lui non plus. Et autre caractéristique qu'on attribue au fait que Dieu est esprit, c'est qu'il est vivant. Acte 17, verset 28. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Il est la vie, il a la vie, et il donne la vie. La vie sous toutes ses formes, que ce soit la vie physique ou la vie spirituelle. Autre caractéristique, il est actif. Ça aussi, pour nous autres, c'est un peu difficile à saisir, parce que Dieu, lui, travaille toujours, sans arrêt. Il n'a jamais arrêté de travailler. Comme il s'est dit dans Jean 5, verset 17, « Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. » Dieu n'a rien de passif en lui. Il travaille continuellement, ne dort jamais. Nous autres, il faut arrêter de m'amener. Lui, 24 heures par jour, que ce soit en 1517 ou en 2021, il travaille tout le temps. Il travaille à maintenir sa création, à la soutenir. Il travaille à nous purifier, à nous sanctifier quand on est ses enfants. Il travaille toujours. Il sait toutes choses. C'est assez extraordinaire de penser ces choses-là. Autre chose caractéristique de cet esprit-là, c'est qu'il comprend absolument tout. Dans le psaume 147, verset 5, ça nous dit « Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. » Moi, ça me... En anglais, ils disent « It blows my mind », ça veut dire ça coupe. Pouf. L'intelligence de Dieu n'a point de limite. Je ne sais pas si dans votre vie, vous avez déjà rencontré des personnes d'une grande intelligence. On dirait que quand vous êtes placé en leur présence, c'est comme s'ils lisaient dans votre conscience, ils lisaient dans votre personne, c'est comme s'ils savaient ce que vous pensez. Tellement que tu te sens... Ça, c'est juste des êtres humains avec des intelligences très limitées. Et on arrive à effiler comme ça devant eux. Imaginez-vous, devant une intelligence infinie. Elle n'a pas de limite. C'est comme incroyable. Dans Ésaïe 40, verset 28, ça nous dit « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. » L'idée de la sonde, là, c'est comme vraiment un fil avec quelque chose de pesant au bout. Quand on sonde, disons, dans un puits, on voudrait savoir la profondeur d'un puits. On a une corde, disons, elle a 200 pieds, on la descend tranquillement. À un moment donné, quelque chose, on atteint le fond. Mais si on voudrait comparer l'intelligence de Dieu avec notre sonde, c'est qu'on laisserait la corde descendre, puis on laisserait la corde descendre, puis on trouve jamais le fond de l'intelligence de Dieu. Parce qu'il n'a pas! Il n'a pas de fond. Dieu est intelligent d'une manière que nous, pauvres humains, comparativement à lui, imaginez-vous ce soir, là, on est ici, à Rouyn-Noranda. Il sait tout ce qui se passe dans vos têtes, ce que vous pensez, les mots que vous pensez dans vos têtes. Et il sait non seulement ce qui se passe dans vos têtes, il sait ce qui se passe dans sur tous les êtres humains de toute la Terre, 7, peut-être 8 milliards, je ne sais pas à combien on est rendu. Imaginez-vous, il sait tout partout ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on pense, à la minute même actuellement. Là. Imaginez-vous l'intelligence que ça prend pour penser simultanément ce qui se passe dans la tête de 8 milliards de personnes. Et ça, c'est juste des personnes, mais ici aussi ce qui se passe dans la nature, tout partout, les feuilles. C'est quelle feuille, à quelle branche va tomber exactement, quelle trajectoire elle va descendre. Tout est ça dans son intelligence. Quand tu regardes au niveau des... Moi, je me souviens, quand j'étais au cégep, on nous avait fait à regarder au microscope une feuille, c'est ce qui se passait à l'intérieur d'une feuille. Et là, on voyait les choses, ça bougeait dans tous les sens. Récemment, Jacques Pelletier nous a envoyé comment une cellule fonctionnait. C'est de toute beauté. Je ne sais pas si je pense que je l'ai envoyé à toi. En tout cas, faudrait que je vous l'envoie à tout le monde. C'est de toute beauté. C'est incroyable. Et ça se passe à tous les niveaux. Et quand tu te mets à penser à Dieu avec la capacité qu'il a, là, on parle de la terre, les animaux ici, tout ce qui sont partout, les animaux ici, quand est-ce que meurt un moineau, un maringouin, n'importe quoi, ici, tout, sur toute chose. Et après ça, quand on embarque dans l'infiniment grand, on embarque dans le domaine des... Ici, exactement, c'est... Quand tu te mets à réfléchir à ça, j'ai découvert un site web récemment où on parle avec des chiffres de la grandeur de l'univers et c'est renversant, absolument. Il est absolument au contrôle de toutes ces choses-là. Ça, c'est le côté qu'on voit. Et il y a un autre côté, il y a le côté où les êtres qui sont en présence de Dieu, les saints sont en présence de Dieu et les anges qui vivent en présence de Dieu. Et le Seigneur voit également toutes les activités de tous les démons qui ont sur la terre, combien est-ce qu'ils sont, je ne sais pas. Mais il voit toutes ces choses-là simultanément, il connaît toutes ces choses-là simultanément à la perfection. Rien ne lui échappe. Quand tu te mets à réfléchir à ça, on se rend compte que notre Dieu, c'est pas un deux de pique. C'est pas un Père Noël, c'est un être d'une grandeur infinie. Juste à y penser, notre esprit vient d'adoration. Autre chose, il est doué de volonté. Dans le psaume 115, au verset 3, nous disons, « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Dans Daniel 4, verset 34 et 35, et aussi on pourrait en nommer des versets, elle nous dit, « Après le temps marqué, moi, Nabuchodonosor, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. » Domination, ça veut dire qu'il contrôle absolument tout ce qui existe, name it, comme on dit en anglais, et il le contrôle. Et c'est pas d'hier, et ça s'arrêtera pas demain. Il l'a toujours fait, il le fera toujours. Très intéressant de savoir que nous, comme chrétiens, on a un Dieu aussi puissant. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu? » Moi, ça me rassure énormément de savoir qu'on a un Dieu quand il décide quelque chose. Il n'y a rien qui peut empêcher l'accomplissement de ce qu'il a décidé. C'est très rassurant, très bénissant. Autre chose, là, j'ai pas compté, je sais pas combien. Moi, je les ai mis en lettres, je sais pas à combien je suis rendu. Il est aussi simple et incomposé. Simple et incomposé, ça veut dire qu'il n'a aucune partie physique. Pour nous, c'est difficile à comprendre. Il n'a ni corps, ni âme, ni esprit. Alors, c'est sûr que là, on pourrait retourner dans les livres de théologie et aller un petit peu plus en profondeur avec ces notions-là. C'est très intéressant. Mais là, c'est une initiation, on va simplement voir les principales choses. Aussi, c'est un esprit aimant. 1 Jean, chapitre 4, verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en nous. Quand on sait dans nos notions humaines, ce que c'est que d'être aimé. On sait ce que c'est. Dieu nous a fait à son image, à sa ressemblance. On sait c'est quoi être aimé. On sait c'est quoi être aimé. Maintenant, on sait aussi jusqu'à quel point l'amour humain a ses manquements, a ses faiblesses. Savoir qu'on est aimé par un Dieu aussi grand qui a toutes les caractéristiques qu'on vient, C'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu, aussi grand qu'il puisse être, continue de nous aimer, de s'abaisser. Il connaît les moindres choses qui nous concernent. Il ne faut jamais penser que Dieu nous oublie. Il n'oublie jamais aucun être humain et il oublie encore moins aucun de ses saints. Et, dernière chose, il est un Dieu trinitaire. Les trois personnes de la Trinité ont une nature commune. Alors, on va revenir, on va avoir une leçon particulière uniquement sur la Trinité. Alors, ce soir, c'est juste pour mentionner qu'il est un esprit trinitaire. Donc, on a dit que le mot « esprit » était qualifié. Toutes les qualifications que je viens nommer, ça se rattache à la personne de Dieu. Les trois personnes de la Trinité ont une nature commune. Chaque personne possède cette nature entièrement et non pas partiellement. Les trois personnes sont co-égales, co-essentielles et co-éternelles. Il n'y a aucune dérivation ou communication d'essence d'une personne à l'autre. Ils ont chacun, toutes les trois, l'essence divine, donc il faut bien se la communiquer, ils l'ont déjà. Je vous conseille d'essayer de retenir ces trois mots-là. Moi, je les avais retenus quand j'étais à l'école biblique. Ça aide beaucoup à voir des faussetés dans l'enseignement des choses qui concernent Dieu. Les trois co. Je commence les trois par un E. Co-égal. Dieu le Père est égal avec Dieu le Fils. Dieu le Fils est égal avec le Saint-Esprit. Ils sont tous égales entre elles. Co-essentiels. Donc, ils ont la même essence. Et l'autre, c'est co-éternel. Il y a beaucoup d'erreurs théologiques qui viennent du fait de la mauvaise compréhension de ces trois co-là. Quand vous avez eu des erreurs théologiques dans l'histoire du passé, c'est soit qu'on disait Jésus-Christ n'a pas existé tout le temps. Donc, il faisait de Jésus la non-existence dans l'éternité. C'est toujours une mauvaise compréhension de ces trois choses-là. Dès que vous comprenez ces choses-là et que vous les gardez à mémoire, vous allez être très facile d'identifier des enseignements théologiques sur la personne de Dieu. Ils sont égales, ils ont la même essence, ils sont tous les trois égales. On en reparlera. Quelques objections maintenant. Alors, on vient de parler d'une personne de Dieu qui a des caractéristiques, mais il y a des gens qui vont lire la Bible et ils vont trouver certaines choses qui semblent contredire ce qu'on vient de dire. Là. Qu'on appelle les anthropomorphismes. Anthropo, ça vient du mot homme, donc ça vient du mot homme, et morphisme, c'est forme. Donc, Dieu, parfois, utilise des choses qui le concernent en utilisant un langage pour nous faire comprendre certaines caractéristiques de sa personne. Par exemple, on parle de la face de Dieu. Tout à l'heure, on disait qu'il est partout, il est au-dessus de l'univers, il est dans sa création, il est partout, il est dans la bouteille, il est dans le livre, il est dans tout le matériel qui compose l'Église. Donc, il est dans tout l'univers, il est dans sa création. Mais il est aussi au-dessus de sa création. Alors, quand on dit la face de Dieu, c'est qu'on est en train de réduire la grandeur qu'on a nommée tout à l'heure. C'est comme si Dieu a un visage. Qu'est-ce qu'on veut dire dans la Bible quand on parle de la face de Dieu? On parle tout simplement d'intimité. Quand on parle, on va se parler face à face. Quand on parle avec quelqu'un face à face, qu'on est jusqu'à un certain point, très près de lui, dans l'intimité. On parle de sa présence, on parle de sa faveur, on parle de sa bonne volonté, on parle de son amour, on parle de sa grâce. Quand on parle de la face de Dieu, à le fond, ce sont ces idées-là qu'on cherche à véhiculer. Alors, ce n'est pas une objection pour dire, la Bible dit que Dieu a une face, donc il ne peut pas être tout ce que tu viens de dire. Le Seigneur s'abaisse à utiliser des images qui le concernent pour nous faire comprendre certaines réalités. Les yeux de Dieu. Quand on parle des yeux de Dieu, on parle de son omniscience et on parle de sa providence toute voyante. Dieu sait ce qui se passe ici. Tout à l'heure, on parlait d'un pasteur en Iran. On parlait d'autres personnes, des chrétiens au Vietnam. Dieu voit toutes ces choses-là de façon systématique, de façon simultanée. Alors, je pense que c'est les yeux de l'Éternel, on parle de son omniscience, le fait qu'il sache tout. On parle des oreilles de Dieu. Ça parle de la rapidité de son écoute, quand on obtient l'oreille de quelqu'un. Ça parle de sa réponse aux requêtes et de sa rapidité à délivrer. On parle même du nez de Dieu. Parle de l'acceptation ou de la non-acceptation de personnes ou de sacrifices. On l'a lu dans les Écritures, c'est quelque chose d'agréable odeur. Ça ne veut pas dire que Dieu est là, puis il sniffe ça, puis trouve ça que ça sent bon. C'est une expression que Dieu utilise, un anthropomorphisme, pour parler que Dieu accepte des choses ou n'accepte pas certaines choses ou certaines personnes. On parle aussi des mains et des bras de Dieu. Dieu parle à ce moment-là de son pouvoir absolu. Souvent, on utilise nous-mêmes l'expression « la justice a le bras long ». Ça veut-tu dire que la justice a un bras qui se rend jusqu'à Sherbrooke, jusqu'à Ottawa, jusqu'à Washington? Ça veut tout simplement dire que la justice a le moyen d'exécuter ce qu'elle désire, ses lois qu'elle a imposées aux hommes. Elle est capable de la faire accomplir. Alors, quand on parle des mains et des bras de Dieu, on dit dans les Écritures, quand on lit le passage, « N'ai-je pas le bras assez long? » Ça veut dire que Dieu, peu importe où qu'on est, il y a toujours la puissance de venir régler des choses qui nous concernent. Par exemple, Daniel dans la fosse aux lions. Pourquoi les lions ne l'ont pas? Parce que Dieu a commandé aux lions ou leur a fermé la gueule. Mais le Seigneur était capable... Il voyait ce qui passait, il a décidé d'intervenir. Il aurait pu aussi ne pas intervenir. Ça, c'est son affaire. Il y a aussi ce qu'on appelle les théophanies. Il y a des gens qui disent, les choses que tu viens de dire ne se peut pas. Alors, je vous dis les objections de ceux qui disent, quand on nomme toutes ces choses-là sur Dieu, ça ne peut pas exister. Ils vont dire, ouais, mais qu'est-ce que tu fais des théophanies? Théophanie, c'est encore là les mots théos, veut dire Dieu, phanie, apparition. Donc, une apparition. Wayne Grudem, dans son livre « Théologie systématique », qui est publié aux éditions Excelsis, dit « L'Ancien Testament rapporte également un certain nombre de théophanies. Une théophanie est une apparition de Dieu. Dans ces théophanies, Dieu a revêtu diverses formes qui sont visibles pour se montrer aux gens. Par exemple, Dieu est apparu à Abraham, dans Genèse 18, verset 18 à 33. Il est apparu à Jacob, quand Dieu a lutté avec Jacob. Il est apparu au peuple d'Israël comme une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Il est apparu à Manoah et à sa femme. Il est apparu à Ésaïe et à d'autres. Alors, ce n'est pas une objection valide que de dire, « Ouais, mais Dieu est apparu sous une forme quelconque, soit une forme d'ange, d'humain, en disant, « Dieu n'a pas les caractéristiques que tu viens de nommer puisqu'il a eu des théophanies. » Il y a aussi l'argument de l'image et la ressemblance de Dieu. En passant, ceux qui ont le livre de Wayne Grudem, il y a un excellent passage, à peu près 2 ou 3 pages, où il vient parler de ce que ça veut dire l'image et la ressemblance de Dieu. Wayne Grudem dit, « De toutes les créatures que Dieu a faites, seul l'homme a été créé à l'image de Dieu. » Qu'est-ce que cela signifie? Nous pouvons utiliser la définition suivante. Le fait que l'homme soit à l'image de Dieu signifie que l'homme est semblable à Dieu et représente Dieu. Et là, il prend dans l'histoire de la théologie l'ensemble de ce que les théologiens disent sur la signification de ça et il définit comment les théologiens ont un peu brodé autour de ça. Quelque part, il donne 4 ou 5 écoles de pensée. C'est intéressant d'aller voir quand même ces choses-là parce que ça nous donne une idée de ce que ça peut vouloir dire, créer une image, la ressemblance de Dieu. C'est sûr qu'on ne rentre pas dans les détails de ça ce soir, c'est pas le but, mais c'est intéressant de savoir qu'il existe différentes écoles de pensée que les théologiens ont développées pour expliquer ce qu'eux croient que ça veut dire. Et il y a aussi les arguments contre la simplicité de Dieu, donc le fait que Dieu soit trinitaire. Ça semble 3 personnes, puis un seul Dieu pour nous autres. Là. Nous autres, quand c'est 3, c'est 3. Quand c'est 3, c'est pas 1. Mais en théologie, on dit qu'il y a 3 personnes, puis un seul Dieu. Quelque part, là, on devient. Alors, la Trinité, les décrets de Dieu, les attributs de Dieu, ne sont pas des arguments contre le fait que Dieu soit saint, le fait qu'on l'a décrit tantôt. Lui dit, la réponse qu'il donne à ça, c'est les décrets et les attributs de Dieu ne sont rien d'autre que Dieu lui-même. Quelles sont les applications, quelles sont les choses qu'à partir de ce qu'on a vu ce soir, très superficiellement, quelles sont les choses qui doivent changer dans nos vies concernant la personne de Dieu? La première, je dirais, débarrassons-nous des images simplistes et infantiles de notre grand Dieu. Il y en a qui voient Dieu comme un gros Papa Noël. Il est dans le ciel, puis on peut l'influencer comme on veut. Et même, il y en a qui le voient comme c'est nous autres qui est aux commandes, puis lui est à notre service. Quand on regarde Dieu, qu'on étudie les livres de théologie, et qu'on se rend compte de l'ensemble des choses, là, on a juste vu que c'est un esprit, les principales caractéristiques du fait qu'il est un esprit. Maintenant, dans les semaines qui vont suivre, on va voir chacun des attributs en détail. Comme par exemple, on va voir la semaine prochaine l'immutabilité de Dieu, le fait que Dieu ne change pas. On va voir toutes ces choses-là. Mais quand on connaît Dieu dans la manière dont la Bible nous le décrit, on ne peut plus avoir une image que j'appelle simpliste ou infantile de Dieu, comme ce qu'il nous montrait dans nos petites images catholiques quand on était jeune, il nous donnait un vieillard assis sur un banc, puis qu'il y avait un oiseau au-dessus de la tête, puis son fils à sa droite. Jusqu'à un certain point, il y a des idées qui sont véhiculées dans ces images-là, qui sont une certaine réalité, mais ça n'est pas le Dieu de la Bible du tout. Là. Et les catholicistes nous ont remplis de ces images infantiles et simplistes du Seigneur. Deuxième leçon qu'on peut retenir, ou application qu'on peut qu'on peut obéir, on voit que Dieu est un être infiniment parfait, et on a intérêt à étudier. Il existe des bons livres de théologie en français. Si jamais il y en a qui sont intéressés, je me demanderai, je vous donnerai des titres. C'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup la théologie, parce que quand tu étudies la théologie, tu étudies la personne même de Dieu. C'est important d'étudier les attributs de Dieu, la personne de Dieu, parce que quand vous allez faire ces choses-là, votre compréhension de Dieu va changer et votre manière de trier va changer. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Alors, un des devoirs qu'on peut avoir, c'est vraiment d'apprendre à le connaître, et pour le connaître, il faut étudier ces choses-là et il faut méditer sur ces choses-là. Troisième chose, on va aller dans le psaume 145, versets 1 à 3. Louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Je lis ça, mais je n'ai pas du tout ça. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. Alors, si on prend les certains verbes qui sont dans le passage, ça nous dit « exaltons-le ». Donc, avec toutes nos facultés, ça veut dire d'élever Dieu le plus haut que notre petit dé à coude peut monter. Bénissons-le. Dire des choses bien sur le Seigneur. Il ne faut pas se gêner de dire au Seigneur « tu es bon, tu es grand, tu es ci, tu es ça ». Et il y en a plein. Et ça le dit. Il n'est pas juste digne de louange. Il est très digne de louange. Célébrons-le. C'est ce qu'on fait, on le fait, on le chanté. Quand on vient au culte, mercredi ou dimanche, on célèbre notre Dieu. Louons-le. Ça non plus, on ne le fait pas très souvent dans les églises. Moi, j'avais un petit groupe avant et on avait pris l'habitude qu'à chaque culte dimanche, on demandait à chacun, on n'était pas beaucoup autour d'une table, on demandait à chacun de louer le Seigneur. Tu as sûrement une raison au cours de la semaine pour laquelle tu veux louer le Seigneur. Soit qu'il était bon envers toi. Il y en a de multitudes de raisons. On n'est pas habitué à faire ça. Cependant, la Bible elle-même nous commande de faire ça. Louez-le selon sa bonté, selon la grandeur de sa personne. Selon, ça veut dire en proportion, en accordance avec ce qu'il est. On ne le fait pas souvent, même dans nos prières. Cependant, on se devrait de le faire parce que la Bible nous le demande. Et adorons-le tous les jours de notre vie. Il en est infiniment digne. Psaume 147, versets 7 et 11. Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Et verset 11. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Voyez-vous ici, ça nous dit de chanter notre Dieu. Ça nous dit remercier l'Éternel des actions de grâce. Et ça nous dit aussi de continuer à le craindre. Beaucoup de choses. Exalter, bénir, célébrer, louer, adorer, chanter, remercier, craindre. Juste deux petits passages des psaumes. Et si on prenait l'ensemble des choses que Dieu nous dit, entre le psaume 145 et le psaume 150, on a dit la semaine passée que c'était des psaumes de louange pure. Ce que le Seigneur nous demande de faire le concernant, il y a plein de verbes qui nous disent de faire des choses qui le concernent. Est-ce qu'on le fait toujours? On questionne? On devrait le faire. Psaume 150, verset 2. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Disons que on prendrait ce verset-là au mot, on dirait, on se met à obéir à ce verset-là. Louez-le pour ses hauts faits. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait faire toute la Bible. Chaque fois que Dieu fait un haut fait, il faudrait le louer pour ça. Seigneur, je te loue parce que tu es le créateur du ciel et de la terre. Et après ça, on s'enirait dans l'autre chapitre. Seigneur, je te loue pour un autre haut fait. La Bible est littérale, fourmille littéralement de haut fait concernant le Seigneur. Le Seigneur nous dit, louez-le pour ses haut faits. Le fais-tu? Il y a plein de choses que les Écritures nous commandent. Quand on dit louer, c'est avec un Z, c'est un impératif. Le Seigneur nous demande de le faire. Et il nous demande de le faire d'une manière systématique pour ses hauts faits. Et là, ça ne sera pas tout. Donc, on aurait pensé toute la Bible, on aurait regardé tous les miracles que Dieu a fait, que le Seigneur a fait accueillir sur la terre. Après ça, il y a des hauts faits ailleurs, il y a des hauts faits dans l'histoire de l'Église. Il y a des hauts faits dans notre propre existence que le Seigneur a fait pour nous, nous avoir sauvés, nous avoir délivrés, nous donner de la direction, nous donner de la nourriture, nous donner de la lumière. Juste verset-là, là, si on le pratiquait, on pourrait le faire là, 15 minutes par jour, tout le reste de nos jours, on se répéterait même pas. On ne dirait jamais la même chose. Puis, as-tu fait des choses, Seigneur? Puis l'autre, la deuxième partie du verset, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. On vient de voir une petite idée de sa grandeur, et il nous demande de le louer en proportion avec le fait qu'il est grand d'une manière infini. On pourrait prendre ce que je vous dis tout à l'heure, j'ai découvert un site web où on parle de la grandeur de l'univers. Et là, je pourrais sortir ça de l'information, de la mettre une feuille et dire, Seigneur, je te loue de ce que tu as créé, un univers de cette grandeur-là, et tout dire ce que j'ai appris sur lui, puis je ferais tout simplement obéir à ce qu'il est en train de me dire ici. Je le louerai selon l'immensité. Ces versets-là, des leçons comme ça, c'est très pratique si on se donne la peine de bien vouloir la comprendre, de vouloir l'appliquer dans nos vies. C'est plein d'applications. Et je suis sûr que je n'ai pas vidé le sujet. Alors, nos louanges ne seront jamais assez grandes et nos louanges ne seront jamais assez